Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence, bienvenue pour ce début de soirée ensemble en direct. C'est Soif d'autre chose, votre émission jeune sur les ondes de Radio Présence, animée par les jeunes toulousains de la paroisse étudiante de Toulouse. Très heureux d'être parmi vous pour vous accompagner dans ce premier début de soirée. Et je suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour, bonsoir.
Bon alors, vous avez pas été au Louvre ce week-end?
Peut-être.
Peut-être. Et bonjour aussi à Léopold qui nous rejoint. Bonjour Léopold.
Salut Enzo.
Toujours pas au Louvre, hein.
Non, non pour ma part, personne. Je suis dans le Pays Basque. J'ai vu un édifice à l'effigie de l'impératrice Eugénie, mais pas au Louvre, non.
Pas au Louvre. Bon. Et Mathéo.
Il est passé. Bonsoir.
Bonsoir Mathéo. Comment ça va?
Ouais, ça va. Moi, j'ai rien à déclarer. Non plus,
rien à déclarer. Bon, mais très bien. Alors, c'est pas l'équipe de Soif d'autre chose qui a la couronne, mais bon, c'est pas grave. On a autre chose. On a la joie et la bonne humeur pour vous accompagner dans ce début de soirée avec tout plein de chroniques. La chronique de Louis-Marie, bien sûr, sur le calendrier liturgique. Et ma Bernard Guérin, qu'on va retrouver dans quelques minutes, qui va nous parler aujourd'hui de du silence. Voilà, le résumé est fait. Et puis l'entretien aussi de Léopold et Mathéo qui vont interroger Pierre qui est chef scout cette semaine. Voilà, le tour est fait. On peut démarrer cette émission ensemble. Et pour démarrer cette émission, on part tout de suite en direction de Paris où on va rejoindre Emma Bernard Guérin qui est étudiante en journalisme qui aujourd'hui va nous parler du silence dans sa chronique. Bonjour Emma.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Présence pour notre nouvelle chronique. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet essentiel, celui du silence et de la place que nous lui laissons dans notre vie. Le silence est-il devenu un luxe? On dit souvent que le silence est d'or, mais aujourd'hui il vaut peut-être encore plus cher. Dans un monde saturé de notifications, de musique d'ambiance, de paroles en continu, le silence n'est plus seulement rare, il est presque suspect. En effet, quand il s'installe, nous nous empressons de le combler, par peur peut-être de ce qu'il pourrait révéler. Et en effet, le philosophe Blaise Pascal lui-même l'avait bien vu en disant « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Rester seul, sans bruit, sans agitation, là est notre problème aujourd'hui. Là est la manière que nous nous confrontons. Cela nous confronte à nous-mêmes et parfois même à Dieu. Le silence, c'est devenu d'abord une épreuve pour nous au XXIe siècle. En 2025, avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le bruit ambiant dans le métro, dans nos bureaux, notre musique au quotidien, la télé, les écrans. Mais le silence... c'est d'abord une épreuve, mais qui peut nous permettre de nous rapprocher de l'essentiel, nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il met à nu, il nous dépouille du bruit extérieur, mais aussi en priorité de notre propre bavardage intérieur. Et c'est justement dans cette nudité-là que commence la prière. La vraie prière, celle dont Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle définit l'oraison comme un commerce d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimé. Mais pour cela, il faudrait déjà que l'on accepte le silence, le laisser nous travailler, nous vider, nous apaiser, et non pas le combler. C'est ce qu'un philosophe appelle la fatigue du bruit. Notre époque souffre de ne plus savoir se taire. En effet, qui ne s'est pas senti déjà pleinement fatigué et lessivé après une journée de boulot passée au téléphone entre plusieurs écrans tout au long de la journée et des heures. Mais ce silence, lui, devient alors un acte de résistance, un choix spirituel, un choix personnel, un retour au cœur à cœur. Car dans le silence, Dieu nous parle. Pas par des mots, mais par une présence, sa présence réellement. Le prophète Élie, sur le mont Horeb, ne le rencontre ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Cette brise, c'est le souffle de Dieu, discret, mais vivant, auprès de nous. Et pour l'entendre, Il faut tout d'abord que tout le reste se taise. Nous vivons à une époque où le silence se vend. Se vend d'ailleurs même à prix d'or. Des retraites de déconnexion, des stages de méditation, des séances de yoga, des cabanes sans wifi dans les arbres. Mais le vrai silence, celui de l'oraison, lui ne coûte rien. Il demande une seule chose, du temps offert au Seigneur. 5, 10, 15 minutes chaque jour où l'on dépose tout, à ses pieds, où l'on s'assied simplement devant Dieu, comme un ami devant un ami, sans vouloir faire sa prière, mais simplement être là, être en sa présence. Ce silence-là, ce n'est pas un vide, non, mais c'est une plénitude, bien au contraire, et ne nous isole pas, il nous relie à Dieu, et peu à peu il nous transforme. Comme le dit saint Jean de la Croix, le Père n'a prononcé qu'une seule parole, son Fils. Il l'a dit éternellement dans un silence éternel. Alors oui, le silence est devenu un luxe aujourd'hui, mais c'est un luxe que le chrétien doit absolument méditer, s'offrir et garder au fond de son cœur. C'est un luxe que chacun peut s'offrir à chaque instant s'il le veut vraiment. Alors la vraie question peut être celle-ci. Dans nos journées, pleines de bruit et d'écran, laissons-nous vraiment encore une place à ce silence où Dieu pourrait doucement venir nous parler? Je vous laisse y réfléchir. Bonne journée à vous.
Un grand merci à Emma Bernard-Guérin qui étudiante en journalisme et alternante à CNews. Merci d'avoir le temps de nous faire ces chroniques chaque lundi. Et puis si vous voulez réagir d'ailleurs à l'émission, vous pouvez nous appeler au 08 92 46 00 12 pour laisser un message et réagir et passer dans l'émission. Notamment si vous avez des questions pour les prochaines chroniques qui vont arriver, notamment sur le grand entretien qui va avec Léopold et Mathéo dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est Thierry Hazard avec le Jerk. Très bon début soirée sur Radio Présence, on se retrouve juste après ça.
Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, à 8h30, 13h et 18h, Radio Présence vous propose un tour complet de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Narbonne.
Bernard, Delphine Narbonne.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, trois rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Présence. 19h14 sur Radio Présence, nous sommes de retour, vous êtes toujours à l'écoute de Soif d'autre chose et il est l'heure du grand entretien animé par Léopold et Mathéo, et aujourd'hui vous recevez tous les deux Pierre qui est chef scout. Bonjour à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut Pierre. Bon, alors du coup on reçoit Pierre Malot, il a 24 ans, il est chef de troupe à la 9e montagne Toulouse. Oui, les scouts montagne ça existe, ils sont pas juste sur la terre. Enfin du coup si, mais aussi à la montagne. Et voilà, il est en dernière année à l'ENAC, une école d'ingénieurs toulousaine. Et surtout il s'y fait sa 3e année en tant que chef de troupe. 3 ans c'est long Pierre, c'est ta dernière année.
Salut les gars, merci de m'accueillir déjà ce soir pour parler de scoutisme. 3e année, c'est long. Ah, écoute, oui et non, parce que quand on fait 3 ans, c'est qu'on aime ça quand même. Mais bon, effectivement, être occupé tous les 2 week-ends, tous les 3 week-ends et l'été, ça commence à faire.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça consiste. Quel est ton programme, quelles sont les activités
oui.
Hebdomadairement.
Alors, comment fonctionne le scoutisme ? Alors, déjà, le scoutisme, c'est l'idée d'apprendre aux jeunes tout ce qu'ils ne peuvent pas apprendre sur les bancs de l'école. Mmh. Il y a 5 buts pour le scoutisme, je les ai sous les yeux parce que je ne connais pas par cœur.
T'as raison.
Mais bon, ça reste quand même central et c'est ce qu'on retrouve toujours dans nos activités. Il y a la santé et le développement physique, évidemment. Tu vois, le campisme, le fait d'aller en montagne, se dépasser. Le sens du concret. Évidemment, les gars se servent de leurs mains plus que de réflexion. Les activités sont vraiment dans le concret. La formation du caractère, justement, cette idée se donner à fond dans ses activités, se dépasser, ça forge un caractère. Le sens du service, évidemment. Mmh. On sait tous que le plus important chez les scouts, c'est la bonne action quotidienne. Et tout ça, évidemment, avec le sens de Dieu, qui est central pour nous, du moins chez les scouts d'Europe. Avec l'idée que, voilà, les garçons évoluent dans la nature et le principal, c'est de se tourner vers la création et de la respecter.
Tu dis les gars, évidemment, parce que j'imagine que tu penses à tes petits scouts quand tu parles, mais ça existe aussi avec les filles, ça s'appelle les guides, et en fait les mouvements, alors c'est des mouvements, les mouvements sont mixtes, enfin les scouts et guides d'Europe, c'est comme ça qu'on les appelle pour les scouts d'Europe, et mais après au sein des troupes et des compagnies, là c'est que les mecs ou que les filles, mais globalement on peut, qu'on soit un mec ou une fille, on est complètement on peut complètement être scout
bien sûr.
Et guide.
Effectivement, c'est peut-être la particularité de notre mouvement, ou comme celui des SUF, par exemple. On ne mélange pas les garçons et les filles, parce qu'on pense que, en l'occurrence, à l'adolescence, c'est un âge où c'est important qu'ils se construisent en tant que garçon, d'une part, ou en tant que fille, d'autre part. Mais il y a d'autres mouvements scouts qui ont fait le choix de les mélanger plutôt.
Oui, pour clarifier un peu, tu parles de mouvement scout.
Oui.
Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer grossièrement les différences qu'il y a et les différents mouvements. Et même l'histoire un peu du scoutisme, hein, comment ça s'est développé. Si tu as quelques éléments d'information, ça peut intéresser les auditeurs.
J'ai passé la formation McLaren cette année, justement. C'est un peu l'aboutissement de la formation des chefs scouts chez les scouts d'Europe. Donc voilà, c'est pas mal, ça me permet de réviser.
Parfait.
Le scoutisme, c'est né au début du XXe siècle. Ça a été fondé par Baden-Powell, un général britannique.
Britannique.
qui voyait des garçons désœuvrés dans les villages anglais. Et donc l'objectif, c'était voilà, de leur donner une tâche bien précise, celle d'éclaireur, et de former ces gars-là, de leur donner voilà, quelque chose de concret qui puisse servir leur pays, tout en se développant et justement voilà, en développant le sens de la patrie et tous les sens dont on a parlé juste avant. Et donc c'est de là que c'est parti, et puis ça a très vite touché l'Europe. Ça s'est très bien développé en France avec le père Jacques Sevin, qui a fondé le scoutisme catholique français, les scouts de France à l'époque. Et ensuite ça a pris beaucoup d'ampleur. Faut se dire que dans les années 40-50, tous les jeunes connaissaient le scouting, tous les jeunes n'étaient pas scouts, mais c'était très très répandu, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Ah oui.
Et donc, effectivement, avec le temps, il y a eu des réformes, notamment chez les scouts de France, qui ont modifié un petit peu la pédagogie, et donc c'est là que d'autres mouvements scouts sont nés, pour faire court. Les scouts d'Europe, notamment, les éclaireurs neutres, les scouts unitaires de France, voilà.
Et est-ce que le scoutisme, c'est ouvert à tout le monde? Je veux dire, est-ce que c'est uniquement catholique? Je crois savoir qu'il y a du scoutisme chez les juifs.
Bien sûr.
Voilà, par exemple. Mais est-ce qu'il y a du scoutisme laïque?
Alors, le scoutisme, évidemment, c'est fait pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. En l'occurrence, pour notre mouvement, les Scouts d'Europe, qui est un mouvement scout catholique, on demande quand même aux familles, aux garçons qui veulent s'inscrire, de cheminer dans la foi catholique. C'est central chez nous. Si ce n'est pas leur objectif, ils vont avoir du mal à s'approprier notre pédagogie, hein. Le sens de Dieu est vraiment très ancré chez nous, mais il existe des mouvements scouts d'autres confessions, des scouts musulmans, des scouts juifs effectivement, qui ne sont pas aussi développés entre guillemets, dans le sens où ils ne sont pas aussi nombreux, aussi répartis sur le territoire français, mais c'est totalement accessible. En fait, le scoutisme à la base, même si disons que ça a pris sa forme la plus aboutie, la plus développée avec avec les scouts chrétiens catholiques, il faut savoir qu'au départ, Baden-Powell disait peu importe ce en quoi croient mes scouts, du moment qu'ils croient en quelque chose. Et donc ça montre bien que l'idée initiale, c'était voilà, de former des garçons qui puissent servir leur pays, être utiles et voilà, se trouver une place sans forcément tout de suite parler de confession, de religion.
Ok,
voilà.
Très bien.
C'est une école de la vie en général, le scoutisme.
C'est une école de la vie en général, exactement. Oui, tout à fait.
Bon, alors cette école de la vie, on a tous envie de la découvrir. Comment on fait concrètement? Comment ça se passe? À quel âge on commence?
Alors, bon, je vais parler du coup pour mon mouvement ouais. scout. Alors, chez nous, chez les scouts d'Europe, on peut commencer à 8 ans avec la meute de 8 à 12 ans, qui est grosso modo l'âge où les petits garçons seront évolueront en meute, qui est un peu l'unité de base, c'est-à-dire qu'ils seront une vingtaine à peu près autour de leurs chefs, de leurs encadrants, et c'est là qu'on découvre un petit peu la vie dans la nature, avec l'imaginaire du livre de la jungle. C'est un peu, si vous voulez, une introduction au scoutisme, parce que l'âge scout central, entre guillemets, c'est la branche 12-17 ans, donc après la meute.
Là, on les monte garçons, à la troupe.
Exactement, on monte à la troupe. Et là, c'est vraiment le scoutisme, pur et dur, on est dedans. Les garçons sont répartis par 7-8 dans des patrouilles et font toutes leurs activités en patrouille. Donc on voit déjà que l'unité de base a un peu réduit, on n'est plus à 20 en meute, on est à 6-7-8 en patrouille. Et puis ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent continuer à la route. Entre 18 et 20, 21, 22 ans à peu près. Là, l'unité de base va encore se restreindre, ce sera le routier. Donc vraiment, on se focalise sur sa progression à soi. Et donc là, ce sera beaucoup plus de la marche, du service, de la prière, du recueillement. Moins d'aventures, entre guillemets, qu'à l'âge scout, mais
tout aussi
intéressant.
Bien. Oui. Et juste, comment ça se goupille une année de scoutisme? Ça recommence tous les ans quand on se réengage. Si tu parlais plutôt pour les scouts terrestres et le oui. scout de base, et après on pourra épiloguer sur les différents types de scoutisme, montagne, marin.
Bien sûr. Alors, effectivement, le scoutisme, ça fonctionne effectivement par année. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Chaque début d'année, donc on constitue nos patrouilles, qui sont quand même assez cohérentes avec l'année précédente à chaque fois. Hein. Mmh. Et tout se construit dans l'optique d'un camp, qui est vraiment
climax.
Le couronnement, exactement. Le climax, j'ai cherché le mot français. Le couronnement de l'année. Tout se construit en vue du camp. On construit nos activités, les techniques qu'on va aborder en vue du camp. Et c'est comme ça que ça s'articule, effectivement. Donc, des week-ends pendant toute l'année où on forme les garçons sur les techniques. Toujours en se basant sur le principe du jeu, hein, c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est un moteur du scoutisme, le jeu. Et donc, en vue de ce camp-là qui a lieu à l'été. Et donc, une fois que le camp d'été est terminé, voilà, y a les grandes vacances pour les gars, et puis on se retrouve à la rentrée en septembre, et hop, c'est reparti pour une nouvelle année. Voilà.
Mmh. Okay. Et concrètement, le type d'activité que vous faites, parce qu'on a l'image d'aller camper, d'aller, je sais pas, cueillir les champignons, peut-être faire de la pêche.
Alors, faut savoir que il y a beaucoup de pistes, c'est comme ça qu'on appelle ça, des pistes, c'est-à-dire plein de techniques différentes, plein de choses qu'on peut aborder pendant nos activités scouts. Alors, je vais parler pour notre cas, les scouts montagne. Alors, à quoi ressemble une activité type? Eh ben, les garçons se retrouvent à la gare à Toulouse et puis ils prennent le train jusque, on va dire, soit du côté de Luchon maintenant qu'il y a une nouvelle ligne, soit du côté de l'Ariège, et puis donc ils descendent en Ariège dans une gare en montagne, et à partir de là ils vont marcher un petit peu, se retrouver dans un coin isolé qu'on a repéré déjà en avance. Ils s'installent, donc ils montent leur tente, ils montent leur feu, et ensuite il y a des activités. Donc en fonction des cycles, on ne fait pas forcément les mêmes activités. En l'occurrence, on a commencé par du froissartage cette année. Froissartage, c'est le fait de travailler le bois, de faire des constructions qui ne tiennent qu'avec du bois.
Voilà. Genre
des bancs,
des tables.
Excellent.
Pas de ficelle, pas de clous, uniquement avec du bois. Et donc pour faire du froissartage, il faut connaître les essences de bois, il faut connaître comment fonctionnent les outils, quel bois on peut couper, comment faire les assemblages. Donc en fait, ça nécessite beaucoup de choses. Puis à côté, il y a aussi l'orientation, la topographie, les cartes, la cuisine, l'expression, les chants, les jeux. Voilà, il y a énormément de choses à aborder. Donc en fonction des week-ends, voilà, on fait des jeux, on travaille des techniques différentes, voilà, tout au long de l'année.
C'est vrai que ce sont des disciplines finalement qu'on n'apprend pas trop à l'école, et que
c'est vrai.
Peut-être les essences de bois, la faune et la flore, ça c'est peut-être un peu perdu en dehors de l'école, enfin
oui,
en général quoi, dans la population.
En fait, peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout, ils peuvent apparenter ça à genre un espèce de Koh-Lanta pendant un week-end, et avec un peu plus de pédagogie,
moins hardcore,
vraiment,
quand même.
Moins violent,
moins hardcore, parce que bah, y a quand même de la manger. Bouffe et tout. Oui, notamment. Mais globalement, voilà, ouais, c'est ça. Et le but, c'est de se dépasser, de bien camper. De... Et surtout, avec un vrai objectif pédagogique derrière, c'est que bah, les chefs, vous êtes là aussi pour faire grandir aux jeunes.
Complètement.
Et voilà. Mais dans l'idée du dépassement de soi et du camper, il faut faire du feu, il faut... Faut monter sa tente, tout ça. Bon, t'es pas en zone tropicale avec des vipères partout. Mais à la montagne, ça peut vite être dangereux quand
même.
Ouais,
ouais, mine de rien, ça arrive vite. Oui, est-ce que, c'est dans... est-ce que toi, dans ton histoire personnelle, t'as eu des cas dangereux, un peu délicats à gérer
ou... Dangereux, je dirais. Non, pas forcément. En fait, on a quand même pas mal de garde-fous. Hein. On emmène pas les garçons n'importe
voilà,
où.
Voilà, ouais.
Je dirais qu'effectivement, il y a des situations où c'est pas évident. Tu vois, je me rappelle le camp d'hiver l'année dernière. Comme on est une troupe spécialisée montagne, d'ailleurs, petit dédicace à la 9e montagne Toulouse, quand même, faut le dire. les garçons campent pas mal dans la neige en hiver, et donc on a un camp d'hiver en février. On part camper 4 jours dans la neige. Donc en l'occurrence, nous c'était au lac des Bouillouses l'année dernière, donc à 2000 mètres d'altitude à peu près. Et donc on passait 4 jours dans la neige. Donc
ouais,
c'est quand même assez costaud.
Ouais.
Surtout pour les gars qui ont 12 ans. Quoi.
Ouais. Ouais. Ils étaient à la meute avant. Ils avaient leur chef ten qui était tout gentil. Et là, on va camper dans la neige.
Même si c'est pas forcément dangereux, en fait, on se dit que c'est
une hypothermie, c'est vite arrivé.
C'est vite arrivé, effectivement. Donc on est équipé, on a ce qu'il faut, on surveille bien les garçons. Parce que la météo peut aussi vite changer en montagne, donc on est là pour réagir, mais voilà, c'est quand même difficile. Mais ce qui est vraiment intéressant avec tout ça, plutôt que de parler de difficultés, c'est comment dire, ce que les garçons apprennent derrière, le sens de la débrouillardise. Quand à 12 ans vous campez dans la neige en montagne, je peux vous dire qu'après il y a peu de choses qui vous impressionnent dans la vie, et donc c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, les garçons grandissent vraiment avec ce sens du concret, ils sont sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, si tu te débrouilles pas, si tu fais pas ton abri correctement en neige, bon, si les chefs sont là pour venir t'aider, mais il y a un côté, voilà, je me débrouille un peu avec ce que j'ai sous la main et je fais comme je peux, quoi. Voilà.
Alors juste, moi j'ai des souvenirs, les chefs sont là pour t'aider, j'ai des souvenirs quand même de, moi j'étais scout marin,
oui.
J'ai des souvenirs de week-end. Des week-ends où on dort sous la tente et là il se met à pleuvoir drache et il y a de l'eau qui commence à rentrer par en dessous de la tente et tout.
Ouais, c'est bien ça.
Et là, là les chefs ils dorment, hein, donc ouais. T'as ton petit groupe de 7, t'as le chef de patrouille, le second de patrouille,
oui.
Et puis t'as les autres avec les petits culs de pattes qui ont 12 ans, donc ils ont entre 12 et 17 ans. Mais à 17 ans, moi donc j'étais le second de mes meilleurs amis du lycée. Voilà, et ben on se réveille et là faut bouger tout le monde, et le petit de 12 ans il découvre, il se dit ah, c'est quand même pas comme au louveteau, et puis
ouais.
Et puis
ouais.
On est là, bah on sort toutes les affaires, et tu sors sous la pluie et tu te débrouilles, quoi.
C'est
et
ça, un scout marin, c'est ça, finalement.
Ouais, ouais, le chef il dort. Ouais, bah là c'était le
là,
bateau,
c'était
il était à terre, hein, c'était la tente.
Il t'en garde quand même,
ça va nager,
et voilà.
Ouais, c'est clair que les chefs sont là s'il y a vraiment un danger.
Oui.
Évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais effectivement, voilà, il faut quand même travailler un peu son esprit débrouillardise.
L'autonomie.
S'il s'agit d'une... Exactement, l'autonomie, c'est tout l'objectif, que les garçons deviennent autonomes. Tu vois, c'est pour ça qu'ils prennent le train pour aller en montagne, en l'occurrence pour nous. C'est que, voilà, depuis la gare jusque dans les Pyrénées, les gars sont autonomes, ils se débrouillent, en fait. On est là pour surveiller, évidemment, leur programme, ce qu'ils vont faire, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils soient autonomes. Et c'est fou, en fait, il n'y a que le scoutisme qui permet d'être autonome comme ça entre 12 et 17 ans aujourd'hui. Quoi.
Oui.
Ça paraît un peu fou vu de l'extérieur de dire qu'il y a voilà, 7 gars qui vont partir comme ça entre 12 et 17 ans en montagne pour un week-end, quoi.
Et
voilà.
Ouais. Et moi scout marin, le week-end on partait, on allait alors c'était à Bordeaux, on allait au port de l'Atécoère qui est pas très loin de Bordeaux.
Excellent.
Et on avait nos bateaux, des bateaux qui appartiennent au mouvement scout d'Europe. Du coup, j'étais scout d'Europe,
oui.
Aussi. Au mouvement scout d'Europe du district de Bordeaux, juste à l'échelle européenne, les mouvements sont répartis par pays, au sein des pays par district, c'est les régions, t'as plusieurs troupes par ville, etc. Voilà. Donc, à Bordeaux, à Toulouse, c'est des grandes villes, il y a plusieurs troupes, tu vois, Pierre, c'est la 9e montagne.
C'est ça, oui.
Ça veut dire que j'imagine qu'il y a une première, une troisième, une cinquième, une septième.
C'est ça. Peut-être pour dire aux gens qui nous écoutent que chez les scouts d'Europe, les groupes sont numérotés impairs pour les garçons et pairs pour les filles.
Ah, d'accord.
C'est pour ça que les garçons, ça fait première, troisième, cinquième, septième.
Et les filles, deuxième, quatrième, sixième.
Exactement. Mais donc, oui, ça fait quand même une ribambelle de groupes. Il y a pas mal de scouts d'Europe dans la province, effectivement.
Et donc, on partageait nos bateaux avec la compagnie marine des guides, qui oui. était la quatrième, je crois. Et donc, c'était la quatrième marine pour les filles et la septième marine pour les gars. Et donc, on se trouvait au port. Alors, du coup, pas avec les filles. Et voilà, et le week-end, enfin le samedi, on allait passer notre journée sur les bateaux. Le matin, on se levait tôt, on allait gréer les bateaux. Ça veut dire les sortir du port, monter les voiles, tout ça, les préparer. On pique-niquait sur les bateaux, c'était trop bien. T'avais les chefs qui étaient dans un zodiac, qui suivaient tout le monde, c'était super.
J'y pense d'ailleurs comme ça, mais effectivement, on n'a pas parlé de la progression scout. C'est vrai que c'est quand même assez central. Faut se dire quand même que c'est un type d'éducation qu'on dit intégrale et personnalisée. Intégrale parce qu'effectivement, on aborde un peu tous les domaines et toutes les dimensions de l'homme pour faire grandir les garçons, tous les sens dont on a parlé au début. Et puis personnalisée parce qu'en fait, les garçons ont une progression personnelle qui leur est propre et qu'ils puissent avancer dans les domaines qu'ils souhaitent à leur vitesse. Et donc, en l'occurrence, le point phare du scoutisme, c'est la promesse scout, effectivement. C'est là que tout commence. C'est pas une progression, c'est un engagement. C'est-à-dire que quand on est prêt, quand on se décide à prendre sa promesse scout, et ben voilà, on en fait part à son chef et on peut prendre sa promesse. Prendre sa promesse, c'est promettre de respecter les articles de la loi scout et de se comporter scoutement dans le monde de tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est récité, en l'occurrence chez nous, le texte sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon Dieu, l'Église, la patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances, à observer la loi scout. Et donc, ça se symbolise par un symbole de la main droite où on lève les trois doigts
du index, milieu.
Trois doigts du milieu, c'est plus facile. Ouais. Et puis, on place son pouce sur son annulaire, symboliser que le plus fort protège le plus faible. Et ces trois doigts levés juste au-dessus symbolisent les trois vertus, franchise, dévouement, pureté chez les scouts. Voilà. Ouais. Et puis donc effectivement tout ça, cette promesse elle est centrée évidemment sur la foi catholique pour les scouts d'Europe, pour les SUF, pour les mouvements disons les plus répandus. Donc cette question de la foi elle est très centrale et c'est pour ça que d'ailleurs qu'en fait la branche des 18-25 ans, on pourrait dire existe après la branche scout, c'est qu'on invite vraiment les garçons, enfin en tout cas le but final c'est vraiment de faire des garçons des bons chrétiens quoi. Et donc l'idée de cet âge 18-22 c'est de beaucoup plus approfondir leur foi, donc avec de la marche, avec la prière, de la vie en communauté d'hommes, ce qu'on appelle donc la route. Qui est d'ailleurs symbolisé par dès le début d'année par un grand rassemblement qui est fait d'ailleurs cette année, c'est 50 ans, le rassemblement de Vézelay à la Toussaint, dont l'objectif est voilà, de rassembler les routiers scouts d'Europe de toute la France, et même au-delà de la France d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des étrangers certaines fois, autour d'un pèlerinage jusqu'à Vézelay pour une adoration eucharistique tous ensemble. Le samedi à l'arrivée à Vézelay, et puis la messe aussi. C'est un moment très fort parce que voilà, quand on voit 2000 gars de 20 ans rentrer dans une basilique en chantant, en priant, c'est impressionnant. Oui, et je recommande vraiment à tous les gars qui ont l'âge, qui ont la possibilité de le vivre, pas besoin d'ailleurs d'être forcément scout depuis toujours ou d'être même routier, on peut le vivre comme ça et c'est vraiment intéressant. C'est une expérience à faire en tout cas.
T'as parlé de la progression, notamment avec ce point phare qui est la promesse, mais faut bien préciser que cette progression-là, en fait, elle est sur tout ton parcours de scout depuis le louvetisme. Donc, quand t'es louveteau dans la meute, t'ouvres tes deux yeux, tu fais ta promesse et ta promesse louveteau, qui est un avant-goût de la promesse scout. Et après, quand t'es scout, tu passes ta promesse, tu obtiens des badges, tu obtiens voilà, et après, très progressif. Mais t'es un pilier, enfin après la promesse au scout, tu peux devenir pilier de patrouille, pilier de troupe. Avec l'âge, tu grandis, tu aides les autres. Et après à la route, t'as là pour le coup maintenant tes progressions elles sont vraiment très personnelles. Tu les passes quand tu veux. T'as le compagnonnage routier, le départ routier. Le départ routier, c'est vraiment l'apogée de la progression.
Oui, complètement, oui.
T'as tout fini.
Voilà. Effectivement. Peut-être pour situer aussi les gens qui nous écoutent, puis qu'on parle entre étudiants, entre jeunes, on pourrait se dire, effectivement, si j'ai 20 ans aujourd'hui, là, et que je suis intéressé par le scoutisme, est-ce que je peux faire du scoutisme? Évidemment, évidemment qu'on peut faire du scoutisme. Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sans avoir fait de scoutisme et en ayant 18-20 ans, c'est d'essayer de commencer éventuellement par la route. Donc ce temps fort spirituel, cette vie entre hommes, en communauté d'hommes, pour un temps voir un peu comment ça fonctionne, et puis en fait grandir aussi personnellement, et puis pourquoi pas enchaîner assez rapidement sur le scoutisme en lui-même, en devenant encadrant, chef scout. Disons que les chefs scouts qui sont sur le terrain avec les garçons qui ont 12-17 ans, là, donc eux ont entre 20 et 25 ans généralement, et ça c'est ouvert à tout le monde. En fait, il suffit de trouver une maîtrise, donc un groupe d'encadrants qui a déjà de l'expérience.
Qui recherche des chefs
pour découvrir soi-même sans problème. Ouais. Voilà.
Et toi, dans ton parcours, peut-être, qu'est-ce que tu as trouvé dans le scoutisme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce genre de responsabilité, à continuer autant? Et finalement, ouais, est-ce que ça te parle vraiment en toi? Est-ce que ça te prend les tripes? Qu'est-ce que t'as retrouvé?
Écoute, j'ai tout trouvé. En fait, vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'entame ma troisième, comme tu disais, et dernière année en tant que chef de troupe, quand même pas mal d'implication. C'est que j'ai à cœur de rendre ce que j'ai reçu. En fait, je pense que sans le scoutisme, je ne me tiendrais pas debout de la même manière aujourd'hui. C'est clair que ça a apporté énormément de choses. Tu vois, ne serait-ce que le sens de l'observation, le fait d'être proactif, d'être débrouillard, tout ça, je le dois au scoutisme. Toutes les choses que j'ai pu apprendre aussi.
Le don de soi.
Le don de soi, le service. En fait, c'est immense. Hein. On a du mal d'ailleurs à décrire à posteriori ce que ça nous a apporté.
C'est l'école de la vie, c'est vraiment ça.
Personnellement, voilà, je ne me verrais pas sans scoutisme aujourd'hui.
Ah, on le sent. On voit, ça t'épanouit, ça. Ça te parle.
Et je pense que c'est primordial, et c'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup de temps pour que les gars puissent faire du bon scoutisme. C'est important qu'ils puissent le vivre et de le partager un maximum. C'est vital pour eux, quoi.
Ça poussera peut-être certains de nos auditeurs à se tourner vers le scoutisme, parce que c'était un beau discours. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre.
Avec plaisir.
Et un grand merci à Pierre pour ce beau témoignage sur le scoutisme. Et alors, est-ce que la 9e aujourd'hui cherche des chefs ou pas?
La 9e ne cherche pas de chefs, mais il y a d'autres troupes qui cherchent des chefs sans problème.
Et donc, où est-ce qu'on peut savoir ça? À qui il faut s'adresser justement pour être recruté en tant que chef?
Eh bien, écoute, on peut chercher très facilement Scout d'Europe de Toulouse sur Internet, ou alors trouver notre page Instagram, la 9e montagne Toulouse, et on vous redirigera vers les bonnes personnes.
Eh bien, grand merci beaucoup, Pierre. Très bonne soirée à toi. Dans quelques instants, nous allons retrouver Louis-Marie avec sa chronique sur le calendrier liturgique. Louis-Marie va nous parler de Saint-Jean-Paul II, mais avant ça, un peu de musique avec Je t'exalte, au roi mon Dieu, c'est la communauté de l'Emmanuel, et Patrick Fiori avec Les gens qu'on aime. Très bonne soirée sur Radio Présence. Il est là.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires. Refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Au juste merci d'être ce qu'ils sont. Qu'ils changent mes heures amères en poèmes. Et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux, et mieux qu'un beau requiem. Et les dire, c'est attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoulent nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passent les jours et puis les semaines, bam badabada. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux, c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire, c'est le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bandabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime.
Présence. 19h45 sur Radio Présence, c'est le retour de Soif d'autre chose pour notre dernière partie d'émission et on accueille Louis-Marie. Louis-Marie, bonsoir, vous allez nous parler, tu vas nous parler aujourd'hui du calendrier liturgique comme chaque lundi et plus particulièrement de Saint Jean-Paul II.
Ouais. Tout à fait, donc Saint Jean-Paul II que nous allons fêter ce mercredi 22 novembre. Donc du coup ce soir je vous amène à la rencontre d'un homme qui a traversé le 20e siècle comme un souffle d'espérance, un homme de prière, de parole et surtout de lumière. Saint Jean-Paul II donc que nous fêtons mercredi 22 octobre. Né Karol Józef Wojtyła en 1920 dans la petite ville de Wadowice en Pologne. Il a grandi dans un pays meurtri, envahi, écrasé mais toujours debout. Il perd sa mère très jeune et son père un peu plus tard, à l'âge de 20 ans, et pourtant, malgré ses épreuves, naît en lui une foi très solide et presque indestructible. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Karol travaille dans une carrière de pierre pour échapper à la déportation, et dans le secret de la nuit, il étudie pour devenir prêtre. Ordonné en 1946, puis élevé au rang d'évêque, d'archevêque, de cardinal, il est enfin élu le pape le 16 octobre 1978. Il choisit alors le nom de Jean-Paul II en hommage à son prédécesseur. Son pontificat dure à peu près 27 ans, l'un des plus longs de l'histoire. Mais plus qu'un pape, Jean-Paul II fut un témoin du Christ au milieu du monde moderne. Il a sillonné la planète comme un pèlerin infatigable, 104 voyages apostoliques, des foules immenses, des gestes simples. Il embrasse le sol des pays qu'il visite, il parle aux jeunes, aux pauvres, aux malades. Il ne prêche pas seulement avec des mots, mais il incarne l'évangile. Mais derrière l'homme public, il y a un homme profondément contemplatif. Ceux qui l'ont connu racontent qu'il priait longuement, parfois des heures entières à genoux, seul devant le tabernacle. Son regard intense et paisible semblait toujours tourné vers Dieu. Jean-Paul II avait une spiritualité à la fois mariale et christocentrique. Il allait à Jésus par Marie. Sa devise papale « Totus tus, tout à toi » vient directement de Jean-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il confiait sa vie, son ministère et son pontificat à la Vierge Marie. Et cette confiance, il ne l'a jamais trahie, même après l'attentat du 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Il dira d'ailleurs, en parlant de cet événement, « Une main a tiré, une autre a guidé la balle ». Il voyait dans sa survie un signe clair de la protection de Notre-Dame de Fatima, à qui il offrit symboliquement la balle qu'il a traversée, et qu'on peut aujourd'hui toujours observer dans la couronne de la statue de Notre-Dame au sanctuaire de Fatima. Spirituellement, Jean-Paul II a profondément marqué l'Église. Il a rappelé au monde que la sainteté n'est pas une option, mais c'est une vocation universelle. Il a appelé les jeunes à ne pas avoir peur et à ouvrir toutes grandes les portes du Christ. Et puis, il a su parler à la modernité sans renoncer à la vérité. Philosophe, poète, penseur, il croyait à la raison autant qu'à la foi. Sa théologie du corps, par exemple, relie le mystère de Dieu au mystère de l'amour humain. Sa foi n'était pas fermée sur elle-même, elle était ouverte, incarnée et lumineuse. Et justement, en parlant de lumière, en 2002, vers la fin de son pontificat, Jean-Paul II a offert à l'Église un cadeau discret mais immense, l'ajout d'un nouvel ensemble de mystères au rosaire, prière qu'il aimait tant et à laquelle est dédié ce mois d'octobre. Parce que jusque-là, le rosaire méditait les mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie de Jésus. Mais Saint Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, les mystères de la lumière, pour contempler le Christ dans les moments forts de sa vie publique. En commençant par son baptême dans le Jourdain, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sur lui et la voix du Père le désigne comme son fils bien-aimé, c'est le mystère de la révélation de Jésus comme fils de Dieu. Ensuite les noces de Cana, à la demande de Marie, Jésus accomplit son premier miracle, il change l'eau en vin, c'est là le mystère de la foi et de la puissance de l'intercession de Marie. Ensuite l'annonce du royaume de Dieu, Jésus proclame la conversion, il pardonne les péchés et guérit les malades, c'est le mystère de la miséricorde et de l'appel à la conversion. Vient ensuite la transfiguration sur le mont Tabor, Jésus se montre transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, sa gloire divine est manifestée pleinement, c'est le mystère de Dieu qui est révélé en Jésus. Et enfin, l'institution de l'Eucharistie, où lors de la scène, Jésus offre son corps et son sang sous les signes du pain et du vin, et c'est le mystère de la présence réelle du Christ et de l'amour suprême qui nous est donné dans l'Eucharistie. Tous ces mystères-là sont comme pour nous une fenêtre ouverte sur la vie du Christ, un appel à laisser la lumière de Dieu traverser nos ténèbres, et c'est tout pour Saint Jean-Paul II. C'est un homme blessé, éprouvé, mais irradiant, irradiant d'une paix qui est née intérieure grâce à la prière. Quand il s'éteint le 2 avril 2005 sur la place Saint-Pierre, les jeunes priaient en silence, des bougies à la main, un vent léger soufflait et beaucoup disaient « il est retourné à la maison du Père ». Aujourd'hui encore, son appel résonne « n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ». C'est un message pour chacun d'entre nous, ne pas craindre la lumière, ne pas fuir la prière et ne pas oublier que la sainteté est une aventure qui est possible. Chers auditeurs, si vous avez un chapelet en votre possession, peut-être cette semaine, essayez de prier les mystères lumineux. Laissez-vous guider par celui qui fut le pape de la lumière, le pèlerin de Marie, le témoin du Christ ressuscité. Pour qu'à la suite de ce grand saint, nous puissions nous aussi, dans le rosaire, trouver un chemin simple et profond pour rencontrer le Christ et porter sa paix dans le monde.
Un grand merci Louis-Marie pour nous avoir fait découvrir qui était Jean-Paul II. Alors bien sûr qui est très connu, mais plus connu dans moins connu dans sa vie de saint. Et d'ailleurs pour notre dernière pause musicale, hein, on va écouter un extrait de L'Homme en Blanc. Voilà, un rapport avec notre dernière chronique, celle de Louis-Marie. Et puis on se retrouve juste après ça. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Il embrasse la terre, à genoux sur le sol comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire avec leur vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu, que la terre est rouge quand on le voit si blanc, comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semonce qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc.
Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grandes écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens. Qu'il annonce aux peuples à genoux, c'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc et poursuit son voyage infatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc. Comme une voile qui bouge sur la marée des gens.
Réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière, Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
0892 46 0012.
Le standard des auditeurs.
h 55 sur Radio Présence, c'est déjà le moment de se dire au revoir et un grand merci d'avoir été parmi nous hein, pour cette début de soirée ensemble. La semaine prochaine, malheureusement, c'est les vacances. Hein, on va tous partir en vacances. Je pense que ça nous fera pas mal de bien. Mais on se retrouve le 3 novembre, toujours en compagnie de Louis-Marie, Léopold et Mathéo pour... vous faire partager ce début de soirée ensemble pour parler de foi, de société. Voilà, c'est l'émission des jeunes, c'est Soif d'autre chose, c'est notre émission, c'est votre émission aussi. Donc n'hésitez pas aussi pour les prochaines fois à nous appeler hein, au 08 92 46 00 12 pour partager des moments ensemble, partager aussi vos coups de cœur, vos interrogations avec nos invités. Très bonne soirée sur Radio Présence, on vous laisse avec des clés pour vivre.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.